Alors aujourd'hui, je vous propose d'approfondir la relation entre l'individu et la société en examinant quel type justement de relation, comment est-ce qu'on peut identifier ce type de relation tout à fait particulière qui est une relation d'un certain élément à une certaine totalité, mais d'une manière justement absolument non triviale. Et en examinant cette relation particulière, on pourra affiner aussi notre évaluation de la manière dont l'individu peut agir sur sa société. Castoriadis passe assez bien de temps à réfléchir sur quel type d'être est une société. Et il dit que ce qu'est le social historique, parce que, comme je vous l'ai déjà signalé, il préfère dire social historique plutôt que seulement société, pour bien marquer qu'une société est toujours inscrite dans une diachronie, elle est tout le temps en train de s'altérer, de se transformer. Donc il faut absolument lier inséparablement histoire et société, donc disons le social historique. Hein. Et il se demande donc quel type d'être est le social historique, et essaye de montrer que ce type d'être est impossible à penser dans les catégories de la logique traditionnelle. Qu'est-ce qu'il appelle la logique traditionnelle ? C'est une logique qu'il appelle ensembliste identitaire. Ensembliste identitaire, expression qui va aussi progressivement, au fil de son œuvre, être abrégée en ancidique. Si jamais vous voyez la... Alors là, par contre, vous pouvez... Si jamais vous voyez le mot ancidique, c'est cette abréviation de ensembliste et identitaire. Pourquoi ensembliste identitaire ? Parce que chaque fois que nous essayons de penser, de désigner, de communiquer à propos d'une chose, nécessairement nous devons lui donner une identité et la placer dans un ensemble. C'est une chose qui est absolument spontanée, c'est un processus absolument spontané et qui est très loin de se réduire à l'attitude scientifique. Ça se trouve dans l'usage tout à fait courant du langage, c'est-à-dire qu'on désigne une chose, ça veut dire qu'on la désigne suivant une certaine identité et en la plaçant dans un certain ensemble. Donc, son identité, c'est quoi ? C'est ce qui caractérise cette chose, ce qui la différencie de tout ce qu'elle n'est pas, c'est ce qui permet de la reconnaître et de la reconnaître par une caractéristique qui non seulement lui appartient en propre, mais dont on ne peut pas la dépouiller, sans quoi elle devient autre chose. Autrement dit, l'identité a à voir avec ce que la tradition philosophique appelle l'essence de la chose, c'est-à-dire ce qu'elle est profondément, ce qu'elle est de manière inséparable, et qui, si on le modifie, eh bien, on obtient un autre type de chose. L'essence est donc opposée à des caractéristiques qui sont, qu'on a dit, simplement accidentelles ou secondaires, c'est-à-dire qu'on peut modifier sans changer ce qu'est profondément la chose. Un exemple tout à fait trivial, si vous changez la couleur d'une fleur, ça n'en reste pas moins une fleur. Donc la couleur est une caractéristique accidentelle ou secondaire, mais fleur, l'identité de fleur, c'est-à-dire tout ce qu'on met dedans pour identifier que ceci est bien une fleur, c'est son essence. Donc pourquoi est-ce que déjà il est impossible même de parler sans appliquer cette logique identitaire ? Eh bien parce que le nom, c'est déjà une généralité, le nom c'est un nom nécessairement commun à plusieurs choses. Le mot fleur est un nom qui s'applique à toutes les fleurs, qui suppose qu'on peut les identifier, les reconnaître, et que donc on peut dire de chacune, c'est bien, elle a bien cette définition, cette identité de fleur. Donc impossible d'échapper à la logique identitaire. Et chaque fois que on applique cette identité, pourquoi est-ce qu'on place en même temps la chose dans un ensemble ? Eh bien parce que chaque fois, on désigne un objet qui fait partie de l'ensemble, ici en l'occurrence des fleurs, ou de l'ensemble d'une espèce quelconque. Cette logique, autrement dit, on ne peut pas y échapper, et ça n'a rien de négatif ou d'oppressant, c'est au contraire ce qui nous permet même de subsister, parce que dans le monde animal, il est absolument indispensable à un animal quelconque, pour sa subsistance, pour sa survie, de pouvoir identifier et placer dans un ensemble ce qu'il rencontre. Ce qu'il rencontre, il doit pouvoir immédiatement le reconnaître, même si cet individu-là, il le voit pour la première fois, il doit pouvoir l'inscrire dans un ensemble, par exemple l'ensemble des proies ou des prédateurs. Ça fait une grande différence pour lui. S'il ne l'identifie pas, s'il n'est pas capable de reconnaître, c'est-à-dire de donner une définition, pas verbale bien sûr, mais une identité et de placer dans un ensemble, il ne va pas survivre longtemps. Donc la logique identitaire ensembliste, pourquoi est-ce qu'elle s'est tellement bien ancrée dans tout le vivant? C'est parce qu'elle est indispensable pour la survie. Hein, et donc il ne s'agit évidemment pas de l'évacuer, hein, ou de la considérer comme superflue. Non, cette logique, elle nous accompagne dans tous les gestes du quotidien, elle est indispensable. Elle caractérise le langage. Et d'ailleurs, à propos du langage, je reporte à la séance prochaine une étude plus particulière du langage, parce que c'est quelque chose qui tient à cœur à Castoriadis, de montrer pourquoi le langage, lui aussi, donc en tant que langue totalité, échappe à cette logique ensembliste identitaire. Donc, mais ça, on verra la semaine prochaine. Pourquoi est-ce qu'il dit que le social historique échappe à la logique ensembliste identitaire ? Pour plusieurs raisons. D'abord, si on prend le côté synchronique, donc si on prend la société comme un ensemble, une totalité, qui contient plusieurs éléments, ces éléments pouvant être considérés soit comme les individus, comme, hein, qui seraient les éléments composants de la société, ou bien comme les différents secteurs d'activité qui, eux aussi, composent d'une certaine manière la société. Hein, puisqu'il faut toute une série d'activités, de secteurs, d'institutions, pour que la société soit complète, pour qu'elle accomplisse l'ensemble de ses fonctions. Donc aussi bien les individus que les secteurs d'activité peuvent être considérés comme des parties de la société. Mais cette totalité qui englobe ces parties, Castoriadis pense que justement les schèmes, hein, c'est-à-dire les structures qui nous aident à penser, ou les modèles par lesquels on pense, les schèmes du tout et de la partie sont tout à fait insuffisants pour en rendre compte de manière subtile, exacte. Parce que, une raison qu'on a déjà rencontrée, qui est qu'on a déjà vu que les individus n'étaient pas des éléments isolables par rapport à l'ensemble. On ne peut pas considérer un individu séparément de la société dans laquelle il s'est développé. Cet individu, par lui-même, indépendamment de tout ce que lui a apporté la société, n'est rien. Et donc, pour que une société soit un ensemble d'éléments, il faudrait qu'on puisse la décomposer dans ces éléments, que ces éléments soient définis, hein, donc qu'ils reçoivent une identité, et que les relations qu'ils entretiennent entre eux et avec le tout soient aussi des relations définies, qu'on puisse exprimer par une identité relative, hein, une identité du rapport. Et il faudrait aussi qu'on puisse, à l'inverse, une fois qu'on a ces éléments isolés, les recomposer, hein, les remettre ensemble dans une certaine organisation, dans un certain ordre, qui rende compte du tout, hein, sans qu'il n'y manque rien. Et ça, dit Castoriadis, c'est absolument pas le cas, c'est absolument pas possible avec les individus d'une société, ni même avec les secteurs d'activité d'une société. Parce que si vous isolez un secteur des autres, il n'est plus lui-même, il ne peut plus rien accomplir, il ne peut plus rien faire. Il ne fonctionne pas sans les autres secteurs. Donc ce ne sont pas des éléments qu'on pourrait, même logiquement, hein, on ne parle même pas de séparer physiquement, réellement, concrètement, mais on ne peut même pas les séparer logiquement. On ne peut même pas dire, voilà, qu'est-ce que ça serait chacune des parties prises à part du tout. C'est impossible. Donc on a en fait une intrication des parties et du tout, telle que le tout est dans les parties, aussi bien que les parties sont dans le tout. Le tout est dans les parties. Vous ne pouvez pas séparer les parties du tout. Comme ces éléments ne sont donc pas distinguables, isolables, définissables en eux-mêmes, on n'est pas dans une logique identitaire ensembliste. Cette logique est impuissante. Alors, il faut bien dire quand même que ce n'est pas la première fois qu'on fait remarquer ça dans l'histoire de la philosophie. Et le premier à avoir remarqué que certains tout sont dans leur partie aussi bien que les parties dans le tout, c'est Aristote. Donc ça date pas d'hier. Bon, n'empêche que c'est la première fois, je crois, hein, pour autant que je sache, avec Castoriadis, qu'on applique ça à la société, à une explication de la société. D'autre part, Castoriadis fait remarquer que, donc toujours pour ce qui est de l'étude en synchronie de la société, donc l'ensemble, la coexistence, hein, de ces différents secteurs, on a peut-être proposé des variantes un peu plus subtiles de la relation tout-partie. Par exemple, en allant puiser dans les sciences naturelles la notion d'émergentisme. La notion d'émergentisme, c'est le fait que un tout est plus que la somme de ses parties. C'est-à-dire qu'un tout peut manifester des propriétés, des qualités, que les parties ne possèdent pas, même en partie, qui ne sont d'aucune manière dans les parties. Donc au moment où on met toutes ces parties ensemble, on obtient quelque chose de qualitativement différent, de telle sorte qu'émerge quelque chose de nouveau, hein, qui était absolument pas en germe dans chacune des parties. Bon, donc ça, ça c'est appliqué dans des schémas, par exemple, chimiques. Si on applique ça à la société, Castoriadis dit que ça ne change rien à la difficulté, parce que, à nouveau, cela suppose qu'on pourrait identifier des parties qui ne soient pas encore dans le tout, hein, qui soient déjà quelque chose sans être encore dans le tout. Donc, qui auraient leurs propriétés intrinsèques, leurs propriétés immanentes, leurs propriétés propres, sans être encore dans le tout, sans avoir aucunement l'influence donc, de ce que ça donne en relation. Et ça, à nouveau, ben, on l'a vu, c'est impossible. C'est impossible pour ce genre de partie. Une autre variante explicative qui est disponible, c'est l'analogie qu'on fait assez souvent entre une société et un organisme, s'entend un organisme vivant, hein, donc une totalité organique. Et c'est vrai que la comparaison est tentante parce que un organisme vivant, on le sait, est caractérisé par la synergie, donc la collaboration entre ces différents systèmes. Un organisme vivant comporte une série de systèmes qui sont tous indispensables à son fonctionnement, mais qui en plus doivent tous être en relation les uns avec les autres pour pouvoir fonctionner. Donc chacun accomplit sa fonction propre et en même temps est connecté avec les fonctions des autres dont il dépend. Si on a un qui lâche, les autres vont lâcher aussi parce qu'ils ne seront plus alimentés par celui-là. Et donc le bon fonctionnement de chacun est nécessaire pour le bon fonctionnement général. Donc ce système, c'est par exemple le système respiratoire, circulatoire, digestif, etc. Bon, on voit bien qu'effectivement dans un organisme vivant, il y a une interdépendance de chacun de ces systèmes. Est-ce que ça ne serait pas une bonne analogie pour penser le rapport entre les différents secteurs d'activité d'une société? Et secteur d'activité, c'est par exemple l'économie, la politique, le droit, l'enseignement, éventuellement la religion, l'art, bon, donc tous ces secteurs d'activité sont, on le sait, c'est clair, interconnectés, interdépendants le plus souvent, et on a besoin de chacune des fonctions, que chacune des fonctions soit correctement menée, soit correctement remplie pour que le tout aussi fonctionne bien. Donc la comparaison est tentante, mais Castoriadis va opposer des objections à cette analogie. Et la première objection qu'il propose, je crois qu'elle n'est pas très convaincante, je vais vous la dire, vous dire pourquoi elle ne me paraît pas convaincante. La première objection, c'est que un organisme vivant, d'après lui, a tout son fonctionnement, a toute cette synergie dirigée vers une fin qui est la permanence de son être et la reproduction de son être à l'identique. Donc un organisme vivant fonctionnerait de telle manière que le plus possible, il reste permanent et quand il se reproduit, ça soit à l'identique. Il reproduise un autre être identique à lui. Bon, évidemment, c'est la génération des vivants, elle se fait d'une certaine manière à l'identique puisqu'il y a reproduction, effectivement, des espèces, à l'intérieur des espèces, il y a reproduction, disons, de quelqu'un de la même essence. Mais on peut tout de même objecter à Castoriadis, je ne sais pas si vous avez pensé à l'objection en l'entendant, mais que il faut tenir compte de l'évolution des espèces quand même, et que l'évolution des espèces, ce n'est pas anecdotique, c'est quelque chose qui, sans doute, à propos des mammifères, se voit être très lente, mais si on regarde les bactéries, qui sont tout aussi bien des organismes vivants, l'évolution est très rapide. Il y a très très rapidement des mutations. Donc la mutation fait vraiment partie de la reproduction de l'organisme, il faut le savoir. Et c'est même une condition de la survie générale des espèces, c'est qu'elles mutent et qu'elles se modifient, pour ne pas être éventuellement décimée lorsque quelque chose s'attaque à elle. Donc ça fait partie intégrale de l'organisme vivant aussi de muter. Donc je pense que son objection là n'est pas vraiment valable. On pourrait dire que aussi bien les secteurs d'une société que les systèmes internes d'un organisme, majoritairement, disons, la plupart du temps reproduisent à l'identique, mais qu'il y a des altérations, qu'il y a des modifications qui ne sont pas anecdotiques et au contraire qui sont saines pour l'organisme. La bonne objection maintenant que Castoriadis oppose à l'analogie, c'est que Dans un organisme vivant, la synergie des systèmes et leur interdépendance reposent sur le fait qu'ils sont tous aussi nécessaires et tous au même niveau. Un seul dysfonctionne et tout le reste est entraîné aussi. Un seul donne une mauvaise information ou un mauvais aliment aux autres et tout fonctionne mal. Or, dit-il, dans une société, on observe très souvent qu'un secteur s'autonomise, on a déjà vu l'expression, s'autonomise par rapport aux autres, donc casse l'interdépendance qu'il a vis-à-vis des autres, ou éventuellement se met à dominer tous les autres. Donc on peut trouver les secteurs d'activité d'une société à différents niveaux. Ils peuvent se placer dans une hiérarchie de niveaux. L'un peut dominer les autres, ou l'un peut s'autonomiser, se détacher de son interdépendance. C'est parfaitement possible. On a vu déjà l'exemple de la société capitaliste, où c'est le secteur économique qui s'est autonomisé par rapport aux autres, qui est devenu la fin de l'ensemble du fonctionnement et qui domine l'ensemble des autres secteurs, puisqu'on ne décide plus rien en politique, ni même en droit, sans avoir un œil sur l'économie, sans être commandé par l'économie. Dans d'autres sociétés, ça sera par exemple la religion. Rien ne se fera sans la domination de la religion. Donc, c'est plutôt monnaie courante dans les sociétés. C'est plutôt la règle que l'exception dans les sociétés, qu'il y ait un secteur qui soit moins dépendant des autres, voire qui domine complètement les autres. Et ça, c'est pas possible dans un organisme vivant. Et Kasoriadis ajoute ce qui est une conséquence, en fait, de cette différence, c'est que chaque société a sa propre articulation entre ces différents secteurs. Chaque société a une agence différemment ces secteurs, alors que les organismes vivants doivent tous les agencer de la même façon. Il doit toujours y avoir le même rapport entre respiration, digestion, reproduction, etc. pour que ça marche. Dans les sociétés, non. Elles sont viables, elles peuvent vivre même longtemps avec cette domination, ce n'est pas un dysfonctionnement. Et enfin, il ajoute cette autre grande différence, mais qui a le poids de toute sa thèse principale, c'est qu'un organisme vivant ne décide pas de manière autonome de la manière dont il agence les systèmes qui le composent. Il ne le décide pas de manière autonome. Même nous qui avons une réflexivité, etc., qui avons un pouvoir de décision, nous n'avons pas le pouvoir d'agencer nous-mêmes nos différents systèmes biologiques. Alors qu'une société, c'est là justement toute sa thèse, une société est elle-même instituante du poids qu'elle donne à chacun de ses secteurs d'activité. Et à propos de cette notion d'autonomie, il y a une discussion que Kasoriadis entame avec un biologiste qui s'appelle Varela, un biologiste chilien, qui avait proposé justement d'appeler autonome les organismes vivants. Et Kasoriadis lui répond, parce que le mot autonome le gêne dans cette acception-là. Pourquoi est-ce que Varela appelait autonome les êtres vivants? C'est parce que l'être vivant se caractérise par le fait que tout ce qui lui vient de l'extérieur est filtré par lui. De tout ce qui vient de l'extérieur, il ne retient que ce qui l'intéresse, que ce qui l'avantage. Aussi bien dans son interprétation des choses, ça lui est indifférent ce qui ne l'affecte pas directement. Il ne le voit même pas, enfin il ne s'y intéresse pas. Et d'autre part, ce qu'il décide d'absorber en lui, c'est ce qui l'avantage, c'est ce qui l'intéresse. Donc il filtre vraiment tout ce qui est à la fois information et apport matériel de l'extérieur. C'est ce qu'on peut appeler aussi la clôture du vivant. Le vivant est d'une certaine manière clos sur lui-même parce qu'il ne laisse pas tout passer. Il ne laisse pas tout passer, il sélectionne ce qu'il reçoit du monde extérieur. Il le sélectionne en fonction de ses propres besoins qui sont différents d'organisme en organisme. Et ça, Varela l'appelait l'autonomie. Donc cette clôture, cette sélection, cette interprétation de l'environnement par tout organisme vivant. Depuis d'ailleurs les bactéries, même les bactéries font ça. Et vous comprenez bien pourquoi Kasoriadis n'est pas d'accord avec cet usage du mot, puisqu'il rappelle quand même que le mot autonomie signifie autre chose que simplement auto-organisation, par exemple, comme on pourrait dire qu'un organisme s'auto-organise. Ça signifie plus que ça. Ça signifie donc une décision consciente sur ce qu'on va suivre comme loi, ce qu'on va développer comme type d'activité, comme ce qu'on va se donner comme but et intention, etc. Et donc voilà, ça, voilà, c'était juste pour vous dire qu'il y avait une petite discussion aussi sur ce... Mais qu'à part ça, sur cette description de l'auto-organisation et de la clôture de l'organisme vivant, Castoriadis est d'accord avec Varela. Voilà, il est d'accord que ça fonctionne comme ça. Donc tout ça pour dire que l'analogie d'une société avec un organisme ou le schème organiciste n'est pas tout à fait adéquat. Hein, on voit pourquoi maintenant, à cause de cette indépendance possible d'un secteur d'activité et à cause de la notion précisément d'autonomie qui n'a de sens que dans une société humaine. Alors pour ça, donc, c'était pour la difficulté d'exprimer par les catégories logiques traditionnelles la société dans la synchronie, hein, dans la synergie de ses composantes. Maintenant, la dimension historique. Pourquoi est-ce que la dimension historique, la dimension donc diachronique, est aussi difficile à rendre compte dans la logique héritée, la logique ensembliste identitaire? Donc ici, on va examiner comment se trouvent les parties par rapport au tout, au sens des différentes phases d'une évolution historique, hein, par rapport à l'ensemble d'une société dans toute son histoire. Comment se succèdent les différentes phases? Quels sont nos schèmes d'interprétation de la succession de différentes phases? Il en distingue trois. Il dit que ou bien on a le schème causaliste, ou finaliste, ou de l'implication logique. Causaliste, c'est par exemple dire que l'événement A cause l'événement B qui vient après lui. La phase A est la cause de la phase B qui vient après elle. Le schème finaliste, c'est le fait de dire que l'événement A est un moyen pour arriver à l'événement B, ou la phase A est un moyen pour arriver à la phase B. Et ça, c'est assez typique de la logique hegeliano-marxiste, puisqu'on dit par exemple que la phase capitaliste était indispensable pour arriver à la société sans classe. On ne pouvait pas sauter directement du féodalisme à la société sans classe. Il fallait la phase capitaliste. Donc, on la justifie par une finalité. Et cette finalité est interne à l'histoire. Ce n'est pas les hommes qui ont cette finalité en tête, qui se disent « bon, alors on va faire le capitalisme et puis on va vite s'en débarrasser, comme ça on arrive... » Non, ce n'est pas eux qui se sont dit ça. C'est inhérent à l'histoire elle-même. C'est comme si le moteur de l'histoire comprenait cette finalité, comprenait cette intention. Donc, bah, c'est ce qui est dit chez Hegel tout à fait explicitement, hein, que la fin de l'histoire au sens de l'aboutissement de tout son développement est déjà compris dans le point de départ, est déjà dans le point de départ. Et donc, l'histoire est donc un déroulement, un développement de ce qui est déjà là au départ. Il y a une nécessité à l'enchaînement des phases, une nécessité qui n'est pas produite par les hommes, hein, qui s'impose à eux de toute façon. Et donc, les marxistes, après, s'arrangeront plus ou moins avec ça en disant qu'on peut quand même plus ou moins aller dans le sens de l'histoire ou aller à contre-sens de l'histoire. Ou bien on peut plus ou moins accélérer le sens, enfin, la marche de l'histoire ou la freiner. Donc, mais ce n'est qu'une question de détail, de toute façon elle se fera. Donc ça c'est pour le schème finaliste. Et alors le schème de l'implication logique, donc en logique, il est exprimé par si P alors Q. Hein, si P alors Q. C'est-à-dire que si on a un élément P, ça implique nécessairement, ça comprend nécessairement qu'on va aussi avoir un Q. Alors, ce Q, ça peut être une propriété de P, par exemple. Donc, si on a P, on a nécessairement une de ses propriétés. Ou une conséquence de son existence. Si P existe, alors nécessairement Q existe aussi, parce qu'ils sont liés par une nécessité quelconque. Et donc, on peut appliquer aussi ça à l'histoire en disant, si on a telle étape, nécessairement, en vertu d'une loi de l'histoire, il va se passer aussi ça. Et donc, on introduit évidemment ici aussi la notion de loi de l'histoire. Il faut qu'il y ait des récurrences nécessaires où tel événement va toujours déboucher sur tel effet, hein, sur tel autre événement, nécessairement. Et donc, dans les trois schèmes, on voit qu'il y a une nécessité à l'œuvre. C'est ça qu'il veut mettre en évidence. Dans les trois schèmes, l'histoire est un processus nécessaire, guidé par une nécessité. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'indétermination dans l'histoire. Tout est défini, tout est déjà, d'une certaine manière, prévisible. Et il ajoute aussi que, par conséquent, dans ces trois schèmes aussi, au fond, chaque étape constitue une partie d'un ensemble. On a déjà l'histoire en totalité, alors qu'on n'a pas encore déroulé l'ensemble de ces étapes. Parce que, si vous voulez, d'une manière on pourrait dire que par la fiction de l'entendement infini, hein, auquel recourent souvent les philosophes, par la fiction de l'entendement infini, on pourrait dire donc s'il y a une intelligence qui connaît tout, hein, elle pourra prévoir comment va se dérouler l'histoire, exactement de la même manière qu'elle peut prévoir comment s'est déroulé l'univers par des nécessités physico-chimiques. Voilà, ce serait la même chose, ce serait du même ordre, l'histoire est une nécessité de la même manière que des processus physico-chimiques. Alors j'avancerai une toute petite objection quand même par rapport, en tout cas, au premier schème, le schème causaliste. Parce que quand on dit l'événement A cause l'événement B, on ne dit pas de quel type de causalité il s'agit, et il n'y a nécessité justement que si on interprète d'emblée la cause comme une cause de type physique ou chimique, c'est-à-dire comme le feu nécessairement va brûler, comme l'objet lâché va nécessairement tomber, s'accélérer, etc. Bon, voilà. Et on n'est pas obligé d'interpréter la cause de cette manière-là. On peut très bien dire justement, et d'ailleurs on a un usage très fréquent, hein, beaucoup plus large de la cause, en disant un producteur, par exemple, il est cause de ce qu'il produit. Un inventeur, il est cause de ce qu'il invente. Un artiste est cause de ce qu'il crée. Et on peut appeler ça une cause, le fait de produire, d'inventer, etc. Donc, il y a place dans la notion de cause pour ce que Castoriadis veut voir dans l'histoire, à savoir la possibilité de création du nouveau, hein, la possibilité de la création au sens propre, c'est-à-dire le surgissement de quelque chose de nouveau. Puisque ce qui surgira de nouveau, ben, surgira parce que quelqu'un le fera advenir, de toute façon, hein, ça, pour Castoriadis, c'est les individus qui vont faire advenir. S'il y a quelque chose qui doit se passer, ça viendra d'eux. Bon, dans quelles circonstances ça, c'est toute une autre histoire et on y viendra progressivement. Mais pourquoi est-ce qu'alors il ne peut pas dire que dans ce schéma causal, il y a place pour la production, pour un véritable producteur ou inventeur, et donc pour la création au sens où il le défend dans l'histoire. Donc je pense que ça reste ouvert et que justement, alors, ce qu'il faut penser, c'est à quelles conditions un producteur ou un créateur est possible et à quelles conditions les individus ne vont pas simplement répéter à l'identique ce qu'eux ont reçu. Quelle est cette condition qui fait qu'on est capable de produire du nouveau et pas simplement d'imiter ce qu'on a reçu. Voilà. Là, on est d'accord, je veux dire, Castoriadis, etc. Bon, on est tous d'accord sur le fait que c'est bien ça qu'il s'agit d'investiguer maintenant. Et ces conditions de possibilité, donc pour qu'un individu soit un vrai producteur, un vrai inventeur, un vrai créateur, on peut peut-être en distinguer de trois sortes. Un type de condition qu'on appellerait ontologique, une condition politique et une condition psychologique. Ontologique en quel sens? Eh bien, au sens où il y a une condition qui relève de la nature humaine, qui concerne la nature humaine. Et je ne parle pas ici d'une nature au sens d'une fixité, hein, qui serait une fois pour toutes établie, qui ne se modifierait jamais, pas du tout, mais au sens d'un potentiel. Bon, l'être humain a un certain potentiel. Il y a des choses qui ne lui sont pas possibles, absolument pas, et donc il a un ensemble de limites et de possibilités dont on peut dire que voilà, ça forme sa nature, même si elle est éventuellement en évolution. Et donc, si la nature humaine est, comme j'ai déjà fait allusion tout à l'heure, si la nature humaine est entièrement déterminée comme un processus physico-chimique ou biologique, c'est-à-dire si nous sommes par exemple entièrement déterminés par nos gènes, ce qui n'est pas une hypothèse invraisemblable, ce qui est une hypothèse d'ailleurs qui est avancée par des généticiens, par exemple. Si nous sommes entièrement déterminés par nos gènes, et donc ultimement par des processus chimiques, alors est-ce que nous pouvons être des producteurs de quelque chose de nouveau? Et non, puisque même si on produit quelque chose de nouveau, enfin de nouveau pour la société, quelque chose qui n'est jamais apparu auparavant, ça sera toujours dans ce type de création qui était déjà prévisible dès le départ. Hein, encore une fois, quelqu'un qui connaîtrait toutes les conditions physico-chimiques de départ pourrait prévoir que ça va se passer, puisque ça serait un enchaînement de réactions parfaitement prévisible, une réaction entraînant l'autre, et puis pour finalement déboucher là-dessus. Donc si on pose que l'individu, que l'être humain n'est pas autre chose que ça, alors l'histoire telle que la veut tel que voudrait la pensée castoriadis, n'existe pas. Il n'y a pas d'histoire au sens de création par les individus, et donc il n'y a pas d'individu libre, créateur, il n'y a pas d'individu qui soit un véritable sujet de l'histoire au sens où il produit quelque chose. Donc ça, ce serait la condition ontologique. Et c'est un débat philosophique très ancien déjà, hein, je veux dire, on discute pour savoir si l'homme est simplement déterminé de la même manière qu'un autre phénomène, ou s'il y a quelque chose comme une exception chez lui, comme quelque chose qui l'arrache à ce déterminisme simplement mécaniste, hein, qui fait qu'il est un ensemble de réactions et rien d'autre. Bon, donc, pour Castoriadis, c'est bien clair, il fait le choix, alors c'est bien un choix philosophique, hein, on ne peut pas le démontrer, mais enfin, il fait bien le choix qu'il y a chez l'individu, enfin, chez l'être humain, quelque chose comme une libre volonté, hein, appelons-la comme ça, une libre volonté qui fait qu'il n'est pas prévisible comme le serait un ordinateur. Il n'est pas simplement le résultat de ce qui a été programmé en lui par ses gènes. Il est autre chose. Donc, voilà. Donc ça, c'est la condition ontologique. En ce qui concerne la condition politique, il s'agit ici simplement d'envisager le pire, c'est-à-dire, est-ce qu'il pourrait y avoir un obstacle politique tel qu'aucun individu ne pourrait plus jamais exprimer, inventer ou réaliser quelque chose de différent du reste de la société ? Ce seraient des conditions politiques extrêmes, soyons clairs. On va discuter plus tard des types de régimes les plus favorables à l'autonomie, etc. Bon, ça, on y reviendra. Mais on peut imaginer un système politique extrême où absolument aucune initiative individuelle, aucune même pensée originale individuelle ne serait permise. C'est ce qu'a imaginé Orwell dans 1984. Voilà. Et c'est ce que certains régimes totalitaires sont presque arrivés à faire. Enfin, en tout cas, ce qu'ils visaient très clairement, c'était de dominer non seulement toutes les activités pour ne permettre que la répétition des activités permises, mais aussi de dominer complètement les pensées pour que même les pensées n'existent plus que comme répétition de ce qui est permis. Donc, c'est pas absurde non plus de le penser, mais enfin bon, nous ne vivons pas dans un tel état, hein, et donc on peut écarter cette condition-là. Enfin, cette condition-là, si vous voulez, en tant que condition, elle est réalisée, on n'est pas dans une oppression totalitaire. Alors, la troisième condition, donc condition psychologique pour que l'individu puisse être créatif par rapport à ce qu'il a reçu de sa société, cette condition psychologique, Castoriadis l'étudie assez longuement. Il consacre toute une partie de son ouvrage à étudier le psychisme, le développement du psychisme. Il est psychanalyste, c'est pas étonnant, il a une expérience, il a une étude théorique consacrée à tout ça, et il l'étudie en suivant de manière assez proche Freud, les travaux de Freud, en le corrigeant simplement dans certains moments, en utilisant d'autres psychanalystes, là où Freud est un peu timide ou un peu prisonnier de son époque, ou là où il faut un petit peu l'actualiser ou le rectifier, bon. Mais en gros, c'est le développement, disons, canonique, reconnu par la psychanalyse, du psychisme à partir du moment où le petit humain est né, et puis, toutes ces premières années, comment ça se développe. Et le stade initial du nouveau-né, il l'appelle la monade psychique. Il l'appelle la monade psychique. Monade, ça veut dire une unité complètement isolée et fermée, qui n'a pas de relation avec autre chose. La monade psychique, c'est ça, le nouveau-né, il n'a pas encore de relation avec quoi que ce soit. Il est complètement fermé sur lui-même, il est incapable encore d'avoir des relations avec l'extérieur, et c'est pas qu'il est dépourvu de représentation, il est, dit Castoriadis, un flux représentatif constant. Pourquoi est-ce qu'il a un flux représentatif constant ? Ça lui vient, la source, c'est son imaginaire radical. Il a déjà un imaginaire radical. L'imaginaire radical, c'est cette source de représentation inconsciente qui nous accompagne pendant toute notre vie et qui est là dès le départ. Ce flux représentatif, qu'est-ce qu'il est ? Il faut prendre représentatif ici dans un sens très large. Il s'agit de données sensorielles, soit qui viennent effectivement à un certain moment de l'extérieur, donc de perception, ou bien de données sensorielles qui sont ravivées à partir d'une expérience passée. Donc c'est typiquement ce qu'on appelle l'imagination, dans le sens philosophique du terme. L'imagination, c'est la faculté de se remettre des données sensorielles en tête, hein, donc de se repasser des images ou des sons ou des expériences quelconques, soit volontairement, soit en se laissant aller à la rêverie, et alors elles viennent toutes seules. Et donc ça nous accompagne encore maintenant, je veux dire, si on relâche son attention, si on ne la maintient pas sur quelque chose de précis, et qu'on se laisse aller donc, à la libre circulation de notre esprit, il va nous arriver toutes sortes de choses. Il va nous arriver encore des perceptions, il va nous arriver des images de toutes sortes qui vont être très fugitives, qui vont passer comme ça, sans lien logique entre elles. Il va nous arriver des désirs et des affects, on va se sentir bien ou mal, on va peut-être sentir qu'on a faim, enfin bon, il va nous arriver des tas de choses. Tout ça complètement mélangé, hein, si on ne fixe son attention sur rien, tout ça chaotique. Et donc si on veut se représenter la monade psychique initiale, celle du nouveau-né, c'est quelque chose comme ça, mais évidemment beaucoup moins riche d'expérience puisqu'il n'a pas encore vécu grand-chose. Il a déjà eu des tas de données sensorielles, il a déjà ressenti des affects, mais pas grand-chose, ça se limite à pas grand-chose et c'est extrêmement chaotique. En outre, c'est beaucoup plus chaotique aussi que ce que nous pouvons avoir parce que ce n'est pas encore structuré par la reconnaissance de l'identique, justement. Nous, quand il y a des images qui se succèdent comme ça très rapidement en nous, et sur lesquels on ne se fixe pas, on les reconnaît quand même. Hein? On peut quand même reconnaître ce que c'est. Lui, pas. Il ne sait pas encore ce que c'est, tout ça. Il ne sait pas à quoi correspondent les sons qu'il a entendus dans le ventre de sa mère. Il ne sait pas à quoi ça correspond. Il n'identifie pas. Donc, c'est complètement chaotique et indéterminé. Bon, alors, le premier stade de développement de cette monade psychique, ça va être donc, le premier stade de socialisation, en même temps. C'est qu'il va falloir s'ouvrir à l'extérieur, s'ouvrir à l'autre et prendre conscience de la différence entre soi et le non-soi, hein, entre le soi et le non-soi, entre soi et l'autre ou entre l'intérieur et l'extérieur. Et cette rupture, d'après tous les psychanalystes, elle est assez douloureuse. Elle est assez douloureuse et c'est pour ça qu'il y a pas mal de psychoses qui sont une sorte de désir de retour à la monade psychique, hein, qui sont un désir de retour à l'enfermement en soi et au rejet de la réalité, hein, au refus de l'extérieur et donc un retour à être uniquement replié sur soi. Donc c'est assez douloureux, enfin douloureux, oui, apparemment c'est un stade auquel on renonce avec regret. Et ça reste une tension donc, tout au long de la vie entre ce qui nous est absolument propre et non partageable et même non exprimable dans le langage et ce qui nous vient de l'extérieur, tout ce qui est structuré nous venant nécessairement de l'extérieur. Donc sans entrer dans les détails de psychanalytiques, hein, des différentes étapes de la socialisation, je vais simplement en retenir deux traits principaux pour... justement comprendre en quoi la socialisation est à la fois nécessaire et à la fois dangereuse, c'est-à-dire où elle peut devenir dangereuse, c'est-à-dire aliénante. Elle ne l'est pas en elle-même aliénante, hein. Elle est absolument indispensable et au contraire, elle sauve l'individu. Si on laissait l'individu sans socialisation, si on laissait cette monade psychique repliée sur elle-même, il mourrait, hein, très vite le nouveau-né. C'est évident que c'est pas seulement parce que ses fonctions biologiques seraient négligées, c'est tout simplement parce qu'il ne serait pas un humain. Hein, il serait absolument incapable même de reconnaître quoi que ce soit. Donc, ce qui est absolument indispensable, enfin, les étapes, disons, qui sont vraiment significatives et qui vont déterminer le type d'individu qu'on va instituer aussi, c'est d'une part l'acceptation du principe de réalité et d'autre part, l'évolution du rapport au plaisir. L'acceptation du principe de réalité, Castoriadis insiste sur le terme réalité en disant bien qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas la réalité naturelle. C'est-à-dire qu'il faut donc s'ouvrir vers l'extérieur, accepter qu'on n'est qu'une petite partie d'une réalité immense, hein, dont on a besoin. Mais cette réalité, ce n'est pas le monde naturel, puisqu'on a bien vu que le monde naturel est immédiatement, d'emblée, complètement modifié par la société. Donc c'est la nature médiée par les significations sociales. Donc en fait, le principe de réalité, c'est quoi? C'est le fait d'accepter qu'on arrive, qu'on est jeté dans une société déjà bien déterminée et instituée et qu'on est obligé de s'y adapter. C'est ça, accepter le principe de réalité, c'est se dire on est obligé de s'adapter, dans une certaine mesure du moins, à une société donnée qu'on n'a pas choisie, qui pourrait être différente. Mais voilà, si on veut survivre, il faut qu'on s'y adapte. Et donc toute la question évidemment de être aliéné ou ne pas être aliéné, ça sera dans quelle mesure on accepte cette adaptation. Hein, est-ce qu'on la prend à la lettre, totalement, sans critique, ou est-ce qu'on se l'approprie avec critique, hein, bon, alors pas tout de suite, hein, pas dans les premières années de la vie, mais progressivement. Donc ça, c'est une chose. Et l'autre aspect, donc l'aspect de... le rapport au plaisir, c'est aussi très important parce que un individu qui est incapable de se donner certains plaisirs ou qui est prisonnier de certains plaisirs et des désirs qui vont avec, bien sûr, puisque le désir, c'est jamais que le désir d'un certain plaisir, un individu qui est incapable de se donner à lui-même ses plaisirs, qui est complètement dépendant de ses plaisirs, c'est un individu évidemment complètement aliéné et qui est une victime toute désignée pour toutes les manipulations, pour toutes les hétéronomies. Donc, comment se fait cet apprentissage, enfin, cette évolution progressive du rapport au plaisir? Il y a une première étape qui est la séparation entre la satisfaction du besoin, donc le plaisir de satisfaction réalisé au moment où il est effectivement satisfait, donc la séparation entre cette satisfaction et sa représentation, c'est-à-dire le moment où le tout petit, très tôt, le nourrisson, est capable de se représenter la satisfaction en son absence. Et c'est très important cette étape parce que ça permet de temporaliser, ça permet d'occuper l'attente de la satisfaction. Ça permet de différer le plaisir. Hein. Apprendre à différer le plaisir est absolument essentiel. Et ça permet aussi d'avoir l'imagination comme substitut du plaisir, hein, d'avoir un plaisir d'imagination au lieu du plaisir de la réalisation concrète, hein, de la satisfaction. Ce qui est absolument extrêmement précieux parce que, de fait, jamais dans une vie on ne pourra avoir de satisfaction constante et immédiate de l'ensemble de ses désirs. Apprendre ça, c'est un minimum aussi pour devenir un être humain, disons un sujet, hein, un sujet un peu maître de soi. Voilà, donc la première étape c'est ça, c'est être capable d'avoir une représentation qui est elle-même déjà un plaisir. La deuxième étape, elle est un peu plus tardive et un peu plus longue, c'est la sublimation des plaisirs, c'est-à-dire ne plus s'en tenir à des plaisirs simplement somatiques, hein, des plaisirs qui sont la satisfaction de besoins, mais apprendre, découvrir en fait des plaisirs qui sont typiquement sociaux, qui sont des plaisirs qui n'arrivent que par la société. Et là-dessus, je vais vous lire un petit extrait pour avoir les termes de Castoriadis. Où est-ce qu'il est? Oui, c'est ça. Il est dans mon... donc, je me réfère au livre, page 458. Voilà, c'est au milieu d'un raisonnement, hein, donc bien sûr, l'extrait tombe un peu... enfin bon, un raisonnement qui vient d'expliquer ceci. Quelles que soient les composantes des phases antérieures toujours présentes, l'individu social est quelqu'un qui peut éprouver du plaisir. Donc les phases antérieures restent, hein, évidemment on a toujours des plaisirs et des besoins somatiques bien sûr, hein, mais l'individu social est quelqu'un qui peut éprouver du plaisir à fabriquer un objet, à parler avec d'autres, à entendre un récit ou un chant, à regarder une peinture, donc apparition des plaisirs esthétiques, à démontrer un théorème, ou à acquérir un savoir, à position des plaisirs intellectuels. Aussi, à apprendre que les autres ont une bonne opinion de lui-même et à penser qu'il a bien agi. Donc, plaisir moral ou plaisir de la reconnaissance sociale. Donc, voilà tous les types de plaisirs qui sont sociaux, hein, esthétiques, intellectuels ou de la reconnaissance ou plaisir moral, le plaisir d'avoir bien agi. Et on voit que de la manière dont on apprend à éprouver ses plaisirs, on va constituer un individu plus ou moins différent et plus ou moins soumis aux injonctions de la société. Parce que le plaisir d'avoir bien agi, à quel critère est-ce qu'il va être mesuré? Est-ce qu'on aura bien agi si on s'est complètement soumis à ce que la société considère comme bien? Ou bien, si on prend comme critère ce que soi-même, après avoir réfléchi et délibéré, on estime être bien, et qui peut éventuellement être en conflit avec les valeurs et les exigences de la société. Donc, toute la question se trouve là, c'est-à-dire dans cette éducation au plaisir, est-ce que l'individu reçoit simplement les injonctions de la société telle quelle, ou bien est-ce qu'il les transforme? Il est évident, si vous voulez, par manifestation, non pas par démonstration, mais par expérience, par manifestation des choses, qu'il y a des individus qui sont capables de sélectionner, hein, de réfléchir sur les valeurs morales qu'on leur propose et de dire « moi je considère que j'ai bien agi quand j'ai fait ça » et non pas quand j'ai fait ça qu'on attend de moi. Il est évident, on a des tas d'exemples de ça, hein, d'individus qui s'opposent justement à leur société sur des injonctions de type moral. Donc, c'est sûr qu'il y a moyen de le faire. Mais qu'est-ce qui a provoqué le fait que certains individus le font et d'autres pas? Toute la question est là, et c'est une question d'éducation. Hein, il est certain que c'est une question d'éducation. Est-ce que, depuis le début, on a poussé le petit à réfléchir à ce qu'il faisait et à pourquoi on lui demande de faire ça comme ça? Pourquoi on estime que ceci est moral et cela pas? Hein, et donc, à valoriser certaines attitudes, certains comportements par rapport à d'autres. Et c'est sûr que l'apprentissage de l'altruisme, par exemple, n'est pas un apprentissage, peut-être un apprentissage de plaisir extrêmement agréable et positif. L'altruisme, c'est un plaisir en plus, pas du tout un sacrifice. Bon, il y a plusieurs théories, encore une fois, à propos de ça, mais je pense que la théorie qui considère que toutes les actions humaines ont toujours pour moteur un plaisir, je pense que c'est la plus lucide et la plus exacte. Hein. Toutes les actions humaines ont toujours pour moteur un plaisir. Mais simplement, il y a des plaisirs très différents. C'est-à-dire, vous pouvez privilégier le plaisir le plus immédiat et le plus primitif, si vous voulez, c'est-à-dire satisfaction immédiate d'un besoin, d'un désir, ou vous pouvez favoriser des plaisirs beaucoup plus subtils, plus sublimés, justement. C'est là tout le côté positif de la sublimation, c'est bien ça. Des désirs plus subtils, notamment... La satisfaction d'avoir bien agi, hein, la satisfaction morale, donc l'estime de soi, c'est un très grand plaisir, hein, ou le plaisir de voir quelqu'un heureux, même si pour ça vous avez dû renoncer à un tout petit quelque chose pour vous-même, ce plaisir est bien plus grand évidemment. Et donc toute cette éducation au plaisir, elle n'est pas difficile à faire. Elle ne va pas contre la tendance naturelle au plaisir, elle nourrit cette tendance et enrichit cette tendance naturelle vers le plaisir. Elle l'enrichit, elle lui donne des nouveaux objets possibles. C'est formidable. Il ne faut pas justement le voir comme une limitation, hein, donc voir l'éducation comme une terrible imposition de la loi qui meurtrit l'individu, qui le limite. Au contraire, ça lui ouvre des horizons bien plus importants de jouissance, précisément. Donc, voilà, on peut le voir de manière tout à fait positive et donc être conscient de former des individus un peu plus subtils, disons, que ceux qui ont besoin d'une satisfaction grossière. Encore un petit extrait un peu plus loin. Donc, pour exprimer le fait que tout n'est pas possible, c'est-à-dire que on ne peut pas créer n'importe quel individu dans n'importe quelle société, mais on est obligé de se plier néanmoins au modèle ou aux attentes d'une société donnée. Castoriadis prend l'exemple de notre société et de la formation d'un individu adapté à la société capitaliste. Il dit qu'il ne peut y avoir de société capitaliste à moins que des capitalistes et des prolétaires ne soient reproduits quotidiennement en millions d'exemplaires par le fonctionnement social, là même où ce fonctionnement ne produisait il y a à peine un siècle que des semi-féodaux et des paysans. Donc, le processus social, ben, il produit évidemment ce dont il a besoin, pour sa reproduction. Donc, chaque société aura tendance à ne produire que les types d'individus dont elle estime avoir besoin pour persister dans le même schéma. Les processus psychogénétiques rendant les individus capables d'assumer les situations de capitalistes et de prolétaires ont une importance décisive. Ils sont une des conditions d'existence du système capitaliste. Ce que les marxistes en général oublient en voulant les réduire à un épiphénomène concomitant automatique du mode de production. Donc, petite critique par rapport à la domination de la causalité productive, hein, de la causalité économique sur les individus. Ce n'est pas directement les rapports de production qui produisent des prolétaires et des capitalistes, c'est aussi toute l'influence, justement, toute la formation du psychisme et le fait que le psychisme... Il est très plastique, justement. Il est capable de s'adapter à l'ensemble de ses rôles. Il est capable de les adopter. Ces processus sont irréductibles à des processus purement sociaux, mais aussi bien ils présupposent logiquement et réellement ces derniers, donc des processus sociaux, puisqu'il s'agit en l'occurrence de former l'individu comme capitaliste ou prolétaire et non pas comme seigneur, patricien de Rome ou prêtre d'Amon-Ré. Rien dans la psyché comme telle ne peut produire ces significations, le monde de signification sans quoi elles ne sont rien. Considérons de plus près le capitaliste comme individu. Il ne suffit pas de rappeler que pour qu'il y ait ce type d'individu, il faut que le sujet se rapporte à un autre, aux autres et à la réalité. Quelle réalité ? Cette réalité est en l'occurrence celle d'une foule d'institutions secondes, d'individus socialement catégorisés, de machines, etc., créations sociales historiques tenues ensemble par la référence commune à un ensemble de significations sociales imaginaires qui sont celles du capitalisme. Et il se trouve, je passe tout un extrait, et il se trouve également que ce capitaliste n'existerait pas, que sa sublimation ne serait que psychose, donc c'est un type de sublimation, hein, devenir capitaliste, c'est un type de sublimation de ses désirs. On les sublime, par exemple, en désir de gagner, hein, en désir de l'emporter sur les autres, en désir de s'enrichir. Tout ça, c'est de la sublimation par rapport à des pulsions, par exemple, anales, etc., hein, comme on a très bien fait le rapprochement. Mais bon, peu importe. Donc, de toute façon, c'est une sublimation. Et cette sublimation, donc, ne serait que psychose si, par exemple, au même moment, la sublimation d'autres individus ne les portait pas à inventer des machines, à constituer des sciences exactes, à réformer la religion ou à travailler à l'institution des États nationaux, non pas en tant qu'élément fantasmatique, mais en tant que composante de l'institution de la société. Donc il faut évidemment qu'il y ait une interaction et une cohérence totale, une convergence totale entre, d'une part, ce que peut devenir une psyché, un psychisme, d'autre part, ce qu'on lui propose comme modèle dans son entourage immédiat, et enfin, ce que le reste de la société compose, pour qu'il vienne s'inscrire dedans. Mais cette structuration par la société, cette imposition de certains rôles, cette fermeture par rapport à certains possibles, n'est jamais totale. Et il ajoute, considérant les choses du point de vue de l'institution de la société, on peut dire que celle-ci doit ménager, donc même pour l'intérêt de la société, elle doit ménager à l'individu la possibilité de trouver et de faire être pour lui un sens dans la signification sociale instituée. Si l'individu ne trouve aucun sens dans cette société, dans ce que lui offrent les modèles sociaux, s'il n'y trouve aucun sens, il ne va pas s'y adapter. Et la société va manquer d'individus qui l'alimentent et qui poursuivent son œuvre. Donc, elle va mal fonctionner. Mais elle doit aussi lui ménager un monde privé, non seulement en tant que cercle minimal d'activité autonome, entre parenthèses, on sait qu'on peut aller très loin dans le rétrécissement de ces cercles, mais en tant que monde de la représentation et de l'affect et de l'intention, dont l'individu reste toujours et à jamais le centre pour lui-même. Donc, elle doit aussi permettre de conserver à l'individu un monde de signification autonome, même si ce cercle est très restreint, même si la sphère privée, autrement dit, est extrêmement restreinte, même si la liberté est réduite à très peu de choses. Il revient au même de dire que l'institution de la société ne peut jamais résorber la psyché en tant qu'imagination radicale. Donc, je vous rappelle, imagination radicale, source d'un flux de représentation absolument unique à chaque individu, absolument propre et absolument impossible à arrêter. Donc ça, on peut affirmer, sans risque de se tromper, que la société ne peut jamais résorber complètement ce flux. Et que du reste, c'est là une condition positive de l'existence et du fonctionnement de la société. Car sans cet apport des individus, elle n'existerait plus non plus. Donc il y va de son intérêt aussi de maintenir ce flux de représentation qu'elle structure et qu'elle utilise à ses propres fins. La constitution de l'individu social n'abolit pas et ne peut pas abolir la créativité de la psyché, son auto-altération perpétuelle, le flux représentatif comme émergence continue de représentation autre. Et enfin, je conclue par un dernier petit extrait. La psyché contient sans doute la potentialité de son ouverture au monde. Nous ne pourrions pas la penser autrement, mais aussi bien ce n'est là qu'une tautologie. Ah, donc dire que la psyché est potentiellement ouverture au monde, ça ne dit encore rien. Hein, c'est jamais qu'un potentiel d'ouverture. Après, ça ne dit pas comment elle va s'ouvrir et qu'est-ce qu'elle va effectivement revêtir comme forme. C'est juste une matière qui peut être informée de différentes façons. Mais cette ouverture ne s'actualise que moyennant la rupture que lui impose sa constitution en individu social historique. Cette actualisation est beaucoup plus qu'actualisation de possibles préconstitués dans une fuscis de la psyché. Fuscis de la psyché, donc une nature, hein, une nature qui serait fixée pour la psyché. Cette potentialité, il faut la voir comme non déterminée préalablement. Ce n'est pas que chaque psychisme peut devenir tel ou tel individu social. Non, ce n'est pas prédéterminé. C'est complètement ouvert. C'est vraiment complètement ouvert. Et si on projetait un nouveau-né actuel dans l'Égypte pharaonique, il adopterait sans aucun problème les modèles, enfin les types sociaux de l'Égypte pharaonique. Il n'y a aucun problème. Donc, c'est vraiment une matière plastique, hein, donc on peut façonner de différentes façons. Et je conclue, mais il n'y a chose et monde que pour autant qu'il y a psyché, et cela veut dire aussi pour autant que le sujet n'est pas réductible à son institution sociale historique, qu'il est toujours autre chose et plus que sa définition sociale d'individu, sans quoi il ne serait que robot ou zombie. On revient à cette condition ontologique, hein, à cette condition ontologique qui est que l'individu n'est pas prédéterminé pour être quelque chose. Hein, il n'est pas entièrement déterminé par le social, de la même manière qu'il n'est pas entièrement déterminé par le biologique. Et ici, je fais encore une petite précision quant au terme déterminé. Il y a une ambiguïté du mot déterminé. On avait vu au départ, quand on parlait de la logique ensembliste identitaire, que la détermination, c'est l'identité d'une chose, c'est la définition qu'on peut en donner, hein, c'est l'ensemble des choses qui la caractérisent, qui la définissent par rapport aux autres. Ça on peut dire que ça, c'est déterminer. Hein, définir, c'est déterminer. Mais il y a un autre sens de déterminer qui est autrement plus puissant, qui est le sens de influencer de manière tout à fait contraignante, hein, c'est-à-dire un processus déterminé, ou même plutôt, on dira plutôt déterministe à ce moment-là, c'est un processus où, étant donné l'état de départ, on va nécessairement avoir un certain état ensuite. Donc c'est le déterminisme, c'est l'opposé de la liberté. Le déterminisme, c'est l'opposé de l'irruption, de l'imprévisible. Le déterminé, c'est le entièrement prévisible, entièrement déjà là au départ. Donc attention, il y a deux sens de déterminé. Et ce n'est pas parce qu'on dit qu'une chose est déterminée au sens de bien définie, qu'elle a bien une identité propre, ce n'est pas pour autant qu'elle est déterminée au sens du déterminisme. Donc il faut toujours bien voir dans laquelle des deux significations on est. Donc voilà pour cette partie. Et je vais encore me donner encore un petit quart d'heure si ça vous va. Donc, l'analyse du psychisme humain, hein, que je viens de passer rapidement en revue et qui est assez bien développée dans le livre, elle confirme ce que nous avions déjà pressenti, c'est-à-dire cette double constitution absolument irréductible de l'individu humain, qui est d'une part un imaginaire radical, une imagination radicale qui lui est propre, qui est ce flux représentatif qui l'accompagne tout au long de sa vie et lui permet donc une création tout à fait individuelle, personnelle, et qui échappe toujours dans une certaine mesure à la détermination sociale, et d'autre part, cette structuration, cette intégration absolument indispensable aussi des significations sociales sans lesquelles on serait incapable d'ordonner tout ce flux et donc de créer quoi que ce soit. Cette double constitution peut être exprimée par cette phrase de Freud qui disait « Là où était ça, je dois advenir. Là où était ça, je dois advenir. » Ou « je dois advenir », bon, ça dépend, hein, si on prend le « je » comme première personne ou si on le prend comme un objet à la troisième personne. En tout cas, le « ça » désigne ici donc non seulement les pulsions primaires, les pulsions les plus primitives de l'inconscient, mais ici, dans cette phrase-ci, ça désigne même plus largement l'inconscient lui-même. Et l'inconscient lui-même doit advenir à la conscience, il doit devenir un sujet, un « je », un sujet conscient, Et même, Castoriadis aime bien la formule sujet réflexif et délibératif, hein, ou réflexif et délibérant, donc capable de se prendre lui-même pour objet, donc de réfléchir sur lui-même, et de délibérer, c'est-à-dire de réfléchir aux différentes composantes de son action, à ses conditions, à ses conséquences, aux différents avantages et désavantages, etc. Donc, en d'autres termes, être capable de choix, être capable de choix véritable. Ça ne veut pas dire, naturellement, que l'inconscient peut devenir complètement conscient. Ça ne veut pas dire que nous pouvons devenir complètement transparents à nous-mêmes. C'est quelque chose d'absolument impossible par définition. Il y a toujours une part d'inconscient qui jamais n'accédera à la conscience. Mais ça veut dire qu'on peut comprendre au moins le fonctionnement de l'inconscient. On peut comprendre comment notre inconscient agit sur nous, comment est-ce qu'il nous influence, comment il nous pousse dans certaines tendances et comment nous voulons, nous, accepter ces pulsions, accepter ces nécessités de l'inconscient. Donc il ne s'agit pas de réfréner les pulsions, d'essayer de les abolir, ça serait pathologique, ça serait complètement pathogène, mais il s'agit de se retourner sur elles et d'essayer de voir le mieux possible, donc en étant le plus possible au courant, averti de comment ça se passe, de pouvoir savoir au mieux comment les reprendre, comment avoir une reprise consciente de ce qui, de toute façon, agit sur nous. Et en particulier, comme nous avons vu que l'aliénation chez un individu, l'aliénation par son propre inconscient, est en grande partie une aliénation par le discours de l'autre, hein, et surtout parce qu'il y a une part d'inconscient immense qui est le discours de l'autre, qui est tout ce que nous avons adopté, intégré inconsciemment de ce qui nous est donné par l'influence sociale. Tout ça, nous l'avons intégré inconsciemment, nous ne savons plus que c'est de l'influence sociale. Nous faisons les choses par habitude et mécaniquement sans savoir que nous l'avons reçu par influence sociale. Et donc toute cette part-là de l'inconscient, le discours de l'autre, on a vu qu'il était aliénant s'il était non su comme tel, hein, si on ne l'identifiait pas comme un discours de l'autre. Si donc on croyait que c'est ça nos vrais désirs, que c'est ça notre vraie réalisation de nous-mêmes. Mais il est parfaitement possible d'identifier dans les tendances spontanées que nous avons ce qui nous vient du discours de la société et ce qui nous vient de nous-mêmes. Il est possible donc d'avoir une reprise et de décider ce que nous voulons de ce discours de l'autre, hein, ce que nous voulons effectivement garder et ce que nous refusons de ce qui nous est proposé. Donc ça, c'est une manière, au niveau individuel, de se débarrasser de l'aliénation. La première aliénation, c'est bien celle-là. C'est notre inconscient qui nous travaille dans la mesure où il a été lui-même informé par des normes sociales et que ces normes sociales, nous pouvons les contester. Mais il faut rajouter qu'une situation sans contrainte est absolument inexistante. Il n'existe pas de situation sans contrainte et en particulier, puisque toute société est le résultat d'une histoire, nous sommes d'une certaine manière contraints par le résultat historique, hein, que nous avons à l'époque actuelle. Et quand on pense un petit peu plus loin donc, à l'action révolutionnaire et qu'on se dit comment transformer la société existante, il faut tenir compte de la situation de départ, dans quoi sommes-nous, quelles sont les conditions actuelles, pour savoir comment à partir de là, par quelles étapes, par quelles progressions, on pourra arriver à ce qu'on imagine de mieux. Il ne sert à rien d'imaginer quelque chose de mieux qui soit complètement déconnecté, complètement différent de la situation actuelle. Il faut partir de cette situation et agir en tenant compte de ses contraintes. Donc ça, c'est assez général. C'est aussi bien vrai pour l'individu sur sa propre vie privée que pour le collectif qui veut transformer la société. Et c'est un processus que Castoriadis rapproche du processus de la création artistique, dans un petit extrait que je trouve très intéressant pour cette raison, et donc que je vous lis de nouveau. Alors, ce n'est pas un extrait de cet ouvrage, L'institution imaginaire de la société, c'est un extrait d'un ouvrage qui n'a pas été publié par Castoriadis lui-même, mais qui a été publié par Nicolas Poirier, ça s'écrit comme le Poirier, qui a eu accès à des archives, aux archives de Castoriadis, à ses notes, et qui a donc publié des extraits datant des années 45 à 67. 45 à 67, ce sont les années qui correspondent à peu près à l'élaboration progressive de ce qui donnera ce livre-ci. Donc on peut dire que c'est contemporain de sa réflexion qui résulte dans cet ouvrage. Ça s'appelle, donc le titre du livre, c'est « Histoire et création ». Et il date de 2009, hein, il a été publié en 2009 par Poirier. Donc voici cet extrait. « Il est constitutif de l'action de se situer sur un sol, d'être inscrit sur un sol dans des circonstances, d'avoir à faire et à se débattre avec des choses qu'elle n'a pas voulu et qui sont là. » Voilà, la situation, elle est là, c'est pas la peine de fantasmer qu'on part en totale liberté, évidemment sans contrainte. S'il n'en était pas ainsi, ce ne serait pas d'action qu'on parlerait, mais de création absolue dans le néant. Hein, quand il parle de création, il ne s'agit pas de ça, d'absolu dans le néant. Et qui serait certes néant, comme l'est le monde par rapport au Dieu judéo-chrétien. Ah, tiens, voilà, on va aller porter la contradiction dans le débat en disant, la création judéo-chrétienne, c'est un néant. L'aliénation se trouve dans la différence, voilà, ceci est important. L'aliénation se trouve dans la différence entre conditionné et déterminé. Il y a aliénation au sens le plus général lorsque les résultats de l'action passée non plus seulement conditionnent, donc influencent, hein, mais dominent l'action présente, donc déterminent au sens de la détermination physico-chimique, hein, au sens de la causalité nécessaire et irréductible. Si la condition devient une domination de l'action présente, alors à ce moment-là, il y a aliénation. Y compris dans le sens de Marx, que les forces objectives créées par l'homme échappent à son contrôle. On peut le voir comme ça. Des forces objectives créées par l'homme échappent à son contrôle. On a vu que ça s'appelait autonomisation d'une institution. Une institution s'autonomise, elle échappe aux raisons pour lesquelles on l'a instituée, et elle se met finalement à se retourner contre ses producteurs, à être contre-productive et aliénante. Un état est possible où celle-ci reste sous son contrôle, ce qui est loin de signifier que les créations peuvent être instantanément annihilées par pure décision. Donc il faut éviter deux extrêmes. Il faut éviter l'extrême de dire on ne peut rien faire et l'extrême de dire on peut tout faire. Ça a l'air assez évident, mais l'important, si on veut être effectif, si on veut être efficace, c'est justement de trouver la mesure. Mais ça signifie simplement que la signification du donné, donc du résultat, de ce qui est là, de la situation, est récupérée de façon continue qu'une reprise perpétuelle du donné, tenant compte de ses lourdeurs, de sa résistance, de ses lois propres, etc., est constamment possible. Cet état n'a rien de mythique. Alors voilà, on demande des preuves, hein. Dites-nous pourquoi on peut être sûr que c'est possible. Et il fait cette comparaison alors, il dit c'est celui qui est constamment réalisé dans toute œuvre de création, et il entend ici au sens artistique. Lorsque Bach écrit une passion, il ne fait rien d'autre. La liberté de création ne consiste pas à se placer dans une situation de liberté abstraite, totale, par rapport aux moyens et aux formes de la musique, ce qui serait une liberté imaginaire et fantasmatique. Elle ne consiste pas à faire ce qui serait en fait sortir de la musique, puisque ce serait sortir de la musique telle qu'elle existe, telle qu'elle est instituée, telle qu'on l'a apprise. Hein, on ne fait pas de la musique sans l'avoir apprise. Donc, si on voulait créer de la musique dans une liberté totale par rapport à ce qui existe déjà en musique, ça voudrait dire oublier tout ce qu'on connaît. Et donc ça voudrait dire se rendre incapable de composer quoi que ce soit. Hein, comment composer si on n'a pas déjà appris la musique, donc si on n'a pas déjà un minimum évidemment, et donc par conséquent on s'inscrira dans un certain cadre musical, dans le cadre qu'on connaît. On ne composera jamais de manière totalement arbitraire, ça sera toujours en fonction d'un certain contexte, d'une certaine culture. C'est là que la culture évidemment est absolument fondamentale. Mais attention, il ne s'agit pas seulement des règles musicales, il s'agit beaucoup plus que ça. Il s'agit de tout le contexte qui influence la création artistique, et notamment le contexte religieux. Et c'est pour ça que Castoriadis cite Bach, parce que Bach écrit des messes, il écrit des thèmes religieux. La passion, c'est un thème religieux. Toute sa musique est une musique religieuse, influencée par ça. Et pourtant, à partir de cette contrainte, qui est une contrainte forte, hein, on peut le dire aussi à propos de la peinture, jusqu'à une certaine époque, la peinture est nécessairement à thème religieux. Et pourtant, dans le cadre de cette contrainte, quelle liberté extraordinaire les peintres ne se sont pas donnés. Hein. Même chose pour les musiciens, quelle liberté extraordinaire ils ont pu se donner, tout en étant régis par ce cadre et ne pouvant pas en sortir parce que c'est celui de leur époque. Bon, ils auraient pu éventuellement, hein, il faut voir selon les époques, on a plus ou moins la permission, la possibilité de sortir d'un imaginaire très stéréotypé. Mais bon. Et donc ceci pour montrer que la création artistique, elle est toujours à la fois contrainte, à la fois prise dans des représentations dont l'artiste n'a même pas conscience, parce que Bach, il n'a même pas conscience que sa religion est une institution sociale et que 2 siècles plus tard, on va l'envoyer paître sa religion. Il ne peut pas s'en rendre compte. Pour lui, il exprime quelque chose d'absolument universel, éternel. Il exprime quelque chose qui dépasse complètement l'humain et pas seulement son époque. Alors, je termine cette citation. Donc, elle ne consiste pas à faire ce qui serait en fait sortir de la musique et à considérer toute musique et même toute expression comme radicalement contingente, c'est-à-dire non liée à l'histoire, hein, non liée à une nécessité quelconque. Elle consiste à dominer les moyens effectivement disponibles et à en créer éventuellement d'autres pour leur faire servir son intention, pour en faire l'expression adéquate d'un contenu qui est vécu comme vérité absolue. Donc même si pour Bach, la religion est vérité absolue, et si ce qu'il exprime est une vérité absolue, donc en tant qu'expression de cette vérité absolue, malgré tout, il a pu mettre en œuvre une série de moyens à la fois disponibles et en créer de nouveaux pour exprimer cela. Donc, pourquoi est-ce qu'il fait cette analogie avec la création artistique? C'est pour montrer qu'il y a toujours dans la création un mélange de reçus, de données, hein, d'inéluctables et de création là-dessus, hein, de reprise, d'invention, de surgissement d'autres. Et nous sommes capables de ça. Voici la preuve. Sinon, il n'y aurait pas de création artistique, ou ce serait toujours la même, ce serait vraiment toujours la même répétition, hein, s'il n'y avait pas cette faculté dans l'être humain. Et donc, il ajoute, tout n'est pas possible, assurément, pour autant que la réalité est définie, hein, donc elle est définie, elle est d'une certaine sorte et pas d'une autre, elle définit le reste. Cela veut dire qu'elle est déterminée et déterminante. Alors ici, dans le sens de définir, hein, dans le sens de déterminer, non pas déterministe, parce qu'elle n'est pas complètement une causalité fermée et entièrement, comment dire, et qui domine entièrement ce qui viendra après, mais elle est déterminante au sens où elle définit ce qu'on peut faire. Le nouveau ne peut être vraiment nouveau que s'il a un sens quant à ce qui existe déjà. Autrement, il ne serait pas nouveau, il serait insaisissable, innommable, irréel. Donc, il faut que si on se propose de faire quelque chose de nouveau, de faire être une activité nouvelle ou un type d'organisation nouvelle, il faut que ça ait un sens déjà pour maintenant. Sinon, on ne peut pas le communiquer, on ne peut pas le saisir, on ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas en convenir avec les autres. Il faut que ça ait déjà un sens pour nous, donc il faut déjà que ce soit pensable dans notre situation donnée. Or, il y a beaucoup de choses qui sont déjà pensables à l'heure actuelle, donc ça ne manque pas. Ce n'est pas de là qu'on a un défaut pour l'action et pour le changement. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà pensables et imaginables et qui font déjà sens pour nous dans la situation actuelle. Donc, mais le nouveau est nouveau en tant que non seulement il fait apparaître un nouveau sens, mais il donne un autre sens à ce qui était déjà là et dont on pouvait penser jusqu'alors le sens comme déterminé, défini, clos, hein, fermé. Il donne un nouveau sens, un sens plutôt négatif à ce moment-là, évidemment. C'est le sens de ce qui doit être dépassé, de ce qui doit être modifié, parce qu'il est insupportable, parce qu'il est révoltant. Donc, le sens qui était donné jusque-là, par exemple, hein, nous sommes dans le meilleur des systèmes, où ce système est indépassable, où ce système est ce que nous désirons tous, ce sens, du fait qu'on lui oppose un sens d'un autre futur possible, eh bien, ce sens change. Et la situation actuelle, la réalité, devient pour nous tout autre, c'est-à-dire révoltante, à rejeter, hein, à modifier. Tout ceci, donc, nous aide à comprendre quelque chose de très important si on parle de la possibilité d'action de l'individu dans sa société. C'est qu'il faut distinguer l'aliénation au sens psychique, au sens de la socialisation, et l'oppression que peut exercer une société sur les individus. Ce sont deux choses différentes. On peut très bien concevoir une société qui domine complètement l'imaginaire des individus, c'est-à-dire où les individus ont un imaginaire personnel extrêmement réduit, et qui est très aliénante, très aliénante puisque c'est le discours de l'autre qui domine, mais où cependant il n'y a pas d'institution oppressive, il n'y a pas un système coercitif, un système punitif, hein. Bref, une violence d'État ou une violence sociale. Des sociétés comme ça, ça existe. Donc ce sont deux choses différentes. Et si nous voulons lutter contre l'aliénation, nous devons donc lutter aux deux niveaux. D'une part, agir sur le psychisme des individus, d'abord sur nous-mêmes, et ensuite peut-être essayer de stimuler les autres à faire la même démarche, hein, de prise de conscience de le discours de l'autre en eux, retrouver leurs propres désirs, leurs propres créations, et non pas ce qui est imposé par des modèles, hein, venant de l'idéologie. Mais d'autre part, nous devons agir aussi en même temps et de manière complémentaire sur cet autre front qui est empêcher les structures coercitives de la société de nous faire obstacle, de faire obstacle à nos projets, à la réalisation concrète de nos projets. Et c'est pourquoi le projet d'autonomie ne peut pas être simplement un projet individuel ou éthique, hein, d'une constitution de soi individuelle. Ce l'est, puisqu'il faut lutter contre l'aliénation psychique qu'on a. Mais ce ne peut pas être seulement ça. Il faut que ce soit en même temps un projet politique, collectif, parce que sinon, nous serons libres dans nos têtes, mais incapables de réaliser cette autonomie que nous désirons dans des activités réelles. Nous serons toujours soumis, hein, au système économique tel qu'il est, au système politique tel qu'il est. C'est pas notre prise de conscience individuelle et notre libération par rapport à notre propre inconscient qui va faire que nous changeons effectivement les choses. C'est une condition, mais pas suffisante. Voilà. Et il y a une note de Castoriadis à ce propos. D'abord, Castoriadis reprend la phrase de Bakounine, mais sans faire la référence, Bakounine qui dit « Ma liberté commence là où commence celle des autres ». Hein, contrairement à l'adage libéral qui est « ma liberté s'arrête là où commence celle des autres ». Non, elle commence là où commence celle des autres. Pourquoi ? Mais parce que si je me libère tout seul dans mon coin, cette liberté, elle est abstraite. Je ne peux rien en faire concrètement. Si je suis seule à être libre et désaliénée, à quoi ça va me servir ? Si je ne peux pas me mettre avec d'autres pour ensemble avoir un autre type d'organisation et d'activité, à quoi ça me sert ? Non. J'ai besoin que les autres aussi soient libres, pour qu'on puisse ensemble nous organiser autrement et rendre une vie concrète possible et autre. Hein, donc ma liberté commence là où commence celle des autres. Bon, ça c'est très précieux. Et ensuite, il ajoute, je désire, non, dans une société d'aliénation, même pour les rares individus pour qui l'autonomie possède un sens, hein, donc voilà, qui ont pris cette conscience et ce désir, elle ne peut que rester tronquée, car elle rencontre dans les conditions matérielles et dans les autres individus, des obstacles constamment renouvelés. Donc aussi bien les conditions matérielles au sens large, hein, les institutions, tout ce qui nous fait obstacle, mais aussi dans les autres individus qui n'ont pas envie de partager ce désir et cette libération. Donc des obstacles constamment renouvelés, dès qu'elle doit s'incarner dans une activité, se déployer et exister socialement. Elle ne peut se manifester dans leur vie effective que dans des interstices aménagés à coup de chance et d'adresse. Donc il faut faire des brèches, hein, il faut trouver les brèches, s'engouffrer dans les interstices où on peut effectivement réaliser quelque chose de concret, quelque chose concrètement. Et ça veut dire effectivement soutenir, par exemple, des productions autogérées, productions en tant qu'elles sont utiles évidemment, hein, pas en tant que ce sont des productions d'hyperconsommation. Mais. Donc soutenir des autogestions, soutenir des projets d'autonomie territoriale par rapport à un État, à condition évidemment qu'on y instaure un type d'autogouvernement et non pas de gouvernement séparé, etc. Donc il y a des choses à faire sur ce terrain de la réalité. Et il faut le mener conjointement avec l'indépendance, l'émancipation de l'esprit par rapport aux imaginaires imposés. Donc il faut en même temps décoloniser l'imagination, hein, qui est colonisée par le discours de l'autre, donc aider les autres à se décoloniser, et en même temps combattre les structures coercitives, limitantes, par exemple toutes ces législations, hein, qui empêchent tout type d'activité indépendante, pour pouvoir rendre cette libération concrète. Alors, Je vais juste terminer par une remarque sur l'évolution de Castoriadis par rapport à ce double projet. Au fur et à mesure qu'il écrit, Castoriadis constate de plus en plus que le projet lui-même est en régression. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de gens qui portent ce projet d'autonomisation. Quand il écrivait dans les années 50-60, il pouvait encore dire « mon projet est un projet collectif. Hein, je suis fort de toute une partie de la population qui désire ce changement, qui désire cette autonomie. Et je peux m'appuyer là-dessus pour le revendiquer avec d'autant plus de force. » Plus on avance dans le temps, moins ça devient vrai. Hein, plus devient minoritaire cette fraction de la population qui désire le changement. Et ça veut pourquoi ? Alors, parce que notre société est aliénante sur les deux fronts, c'est-à-dire à la fois sur le front psychique et sur le front de l'oppression. Sur le front de la domination psychique, c'est le rôle de l'idéologie. Le rôle de l'idéologie est extrêmement prégnant à l'heure actuelle. Je vous renvoie par exemple aux travaux de Chomsky sur la fabrication du consentement. Comment nos démocraties, pour la majorité de la population, n'ont pas besoin d'être coercitives. Il suffit de diffuser le discours du pouvoir, hein, le discours de l'idéologie par l'intermédiaire des médias, de le matraquer constamment pour que la plupart des individus l'intègrent et ne se rebellent pas contre lui. Donc on les maintient de manière non violente, sans avoir besoin de violence, simplement par l'idéologie. Donc ça s'est renforcé hein, depuis quelques dizaines d'années, en tout cas par rapport aux années 60. Et d'autre part, notre société agit aussi de manière oppressive sur cette petite minorité sur qui l'idéologie ne fonctionne pas, sur qui le matraquage du discours du pouvoir n'a pas de prise. Et sur cette petite minorité, pour cette petite minorité, on envoie la violence d'État. Hein, donc dès qu'elle proteste, en tout cas, et qu'elle manifeste son opposition, on la restreint par toute une série de lois répressives et de forces brutales, hein, faut bien le dire, dès que l'opposition prend un certain corps. Donc, ça, c'est une explication qui n'est pas compliquée à voir. Il n'est pas difficile de voir pourquoi il y a régression. Parce qu'il y a renforcement de cette double oppression de la part du pouvoir. Enfin, des pouvoirs, hein, c'est les pouvoirs au sens large. Hein, c'est le pouvoir financier, économique, politique, tout cela étant convergent. Et je dirais que peut-être ce qui fait partie aussi de la régression, ou qui peut-être en est une conséquence, c'est la réaction du monde militant. Que font les milieux militants ? Ils abandonnent, je pense, cette double lutte qui est la lutte contre la domination de l'imaginaire et la lutte contre les structures coercitives du pouvoir au sens total, en faveur d'un projet autre de société. La majeure partie des milieux militants, malheureusement, abandonnent ça pour se concentrer sur des formes de résistance qui concernent seulement les exclus du système. La plupart maintenant des groupes militants sont des groupes qui soutiennent et défendent, c'est très bien, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, mais attention, je dis d'abord les limites de cette action, qui soutiennent des groupes de sans-abri, sans-papier, roms, exclus de toutes sortes, mais qui, en faisant cela, donnent l'impression que le système n'est mauvais que parce qu'il exclut. Et qu'au contraire, il suffirait que tout le monde réintègre le système pour que tout aille bien. C'est l'impression qu'on donne en disant « arrêtons les exclusions ». Arrêtons les exclusions, ça veut dire quoi ? Tout le monde est inclus dans le système, le système est bon en lui-même, il faut juste qu'il cesse d'être excluant. C'est pas du tout ça, évidemment, qu'il faut dire. Le système est mauvais, hein, et il faut s'en exclure. Mais évidemment, pas s'en exclure de manière à tomber dans le fait d'être dépourvu de toute autre alternative. Il faut en sortir pour une alternative et non pas pour le rien, hein, pour le dépourvu de tout. Donc je pense que c'est important que les milieux militants réintègrent cette double lutte contre le système, hein, une lutte contre ces forces de coercition, mais non pas simplement pour protéger les marges, les exclus, non, pour dire nous en avons assez de cette limitation de nos activités, nous voulons avoir la possibilité de créer des autogestions, hein, des autonomies réelles, et d'autre part, une lutte évidemment contre la domination idéologique, hein, ça c'est loin d'être épuisé. Voilà. Donc voilà comment je pense cette analyse de Castoriadis peut renouveler quand même le militantisme et la lutte contre le système. Mais c'est pas fini, il y a encore deux séances. Thank you. si quelqu'un veut aller faire l'opposition à notre débat, c'est le moment. Et sinon, ben, on a la discussion entre nous.
À propos des luttes catégorielles, vous parlez. Je pense que le système est tellement vicieux qu'il se sert de ces luttes catégorielles pour éviter que justement on aboutisse à une action commune. C'est en ça que c'est dangereux. Donc c'est bien de défendre comme vous dites, mais il faut ramener quand même au tronc commun, sinon un peu fausse route, bien sûr. Et l'aliénation, c'est une forme adoucie de l'oppression. C'est une autre forme de l'oppression. Quand on aliène quelqu'un, on l'oppresse par les idées qu'on lui impose. Bon, c'est une petite note pour vous donner.
Aujourd'hui, on aliène et on impose par la séduction. Marchandises, on voit combien la jeunesse, évidemment, c'est le consumérisme, les loisirs, l'industrie cinématographique, l'identification à des héros, etc. Le mode vestimentaire, séducteur. C'est très aliénant.
C'est la mythologie du quotidien.
Oui.
En quelque sorte. Qui relaye l'absence de vie.
Disons l'absence de sens.
Voilà.
C'est ça que vous vouliez dire. Enfin, je veux dire l'absence de. Effectivement, c'est ce qu'il entend par la montée de l'insignifiance. Hein. L'expression est vraiment importante et tout à fait caractéristique de ce qu'il veut, caractériser dans notre époque. Montée de l'insignifiance, on n'a plus de sens, ou le sens est tellement appauvri, le sens est limité à ce que dit Christian, donc la marchandise, la séduction de quelques modèles très, très schématiques de héros, les modèles identificatoires qu'on nous propose sont extrêmement pauvres, et voilà, et donc cette absence de sens, très clairement... Si on veut contrer cette pauvreté, il faut en créer de nouveaux, évidemment. Mais comment ? On ne veut pas retourner aux religions, on ne veut pas retourner... On veut pas, enfin, je pense que globalement, on ne veut pas retourner au mythe au sens étroit du terme, c'est-à-dire s'inventer une cosmogonie, etc. Bon, je pense qu'on n'est plus capable de faire ça parce qu'on n'y croit plus. Mais il y a autre chose, hein, tellement d'autres créations possibles.
Moi, je veux dire qu'il me semble qu'il manque une base scientifique encore plus importante. Dans le domaine des connaissances, puisque l'organisme vivant a des systèmes d'autorégulation, et que après les rejets, on ne peut pas avoir un déterminisme absolu, puisqu'il y a une part d'inconnu qui va se créer dans le vivant. Et donc, on ne peut pas prévoir, envisager tous les systèmes comme il a été dit, comme ça. Parce qu'il y a une part, de déterminisme indéterminé.
Vous parlez des systèmes organiques, biologiques, ou bien aussi sociaux.
Même dans la société, il y a par exemple l'inconscient, comme vous avez parlé tout à l'heure. Bon, il y en a un qui l'a très bien étudié, qui est mort, c'est le double neveu de Freud, hein, dans Propaganda et ainsi de suite. Et puis vous avez Todd qui parle, par exemple, de l'imprégnation des systèmes familiaux dans les inconscients de la tête des gens. C'est pour ça que la France est différente de l'Allemagne, différente de l'Angleterre. Donc il y a aussi, donc, c'est ça, un substrat scientifique de connaissances actuelles. Et puis, juste une image pour illustrer ce que je dis un moment. Quand on invente l'automobile, et ben c'est un carrosse sans bras et sans chevaux. Ça ne peut pas être autre chose. Donc, est-ce que notre imagination est parfois limitée? Il n'y a que des inventions, il y a très peu d'inventions réelles de l'homme.
C'est un très bon exemple que vous donnez parce que ça illustre tout à fait le sol, exactement. Ça illustre tout à fait ce qu'on dit, c'est-à-dire on part d'une situation donnée où on a des carrosses et on invente quelque chose qu'on estime être une amélioration parce qu'on peut désormais se passer de chevaux et on y met un moteur à la place. La mécanisation, effectivement, elle ne part pas de rien. C'est-à-dire on ne va pas créer quelque chose dont on n'a pas besoin. On a besoin d'un moyen de transport, on remplace celui qu'on a en y ajoutant simplement ce qu'on pense être l'amélioration. Donc, oui,
alors, tout à fait. Ça veut dire que quand on a une société à imaginer, on doit bien partir du réel.
Absolument. À Absolument, vous confirmez tout à fait par une illustration très, très parlante ce que veut dire Castoriadis. Et ça veut dire que, mais ça veut dire aussi qu'on doit identifier quels sont les besoins qu'on veut continuer à satisfaire. Oui. Dire, voilà, est-ce qu'on veut par exemple supprimer tout ce qui est production électronique, etc., y compris les ordinateurs, Internet, les téléphones, est-ce qu'on, voilà, ou pas. Ou à quelles conditions est-ce qu'on veut, voilà, est-ce qu'on veut les limiter pour que ce soit soutenable écologiquement, ou est-ce qu'on veut supprimer tout à fait. Ce sera des décisions à prendre. À partir même de la situation présente, je veux dire, il y aura beaucoup de choix possibles et qui ne sont pas prédéfinis, donc il faudra trancher. Alors par rapport à votre remarque à propos de la connaissance scientifique, mais justement, la connaissance scientifique, elle se limite à ce qui est précisément déterminable, c'est-à-dire à ce qu'on peut identifier ou prévoir. Donc, quand elle connaît un processus, c'est un processus qui obéit à des règles, hein, et donc à des, un processus qui est, dont on peut dire qu'il est prévisible. Ce qui va se passer est prévisible, alors on peut le connaître scientifiquement. On peut dire que, voilà, en chimie, si on met tel et tel réactif ensemble, ça va produire ça. Ça, c'est une connaissance scientifique. Ou en mathématiques, on va produire ceci à partir de tels axiomes. C'est une connaissance scientifique. Dans les sciences sociales, alors, il y a justement une controverse sur le fait, est-ce que les sciences sociales, les sciences de l'humain en général, ou la psychologie, peuvent atteindre le même degré de prévisibilité que les sciences naturelles. Si c'est le cas, alors c'est justement ce choix ontologique, hein, si c'est le cas, ça veut dire que tous les processus humains sont réductibles à des processus prévisibles. Si on connaît les conditions de départ, on peut déduire tout ce qui va se passer. Et voilà, il y a deux tendances. Hein. Il y a une tendance qui est surtout représentée par les neurosciences qui acceptent ça, qui pensent que si on connaît la chimie du cerveau, on peut tout prévoir des réactions et des comportements humains. Bon, c'est très facilement objectable. Hein. Je veux dire, on peut décomposer ce discours quand même. Vous ne le soutenez pas.
Même Changeux ne le tient pas.
Voilà, même Changeux n'arrive pas à le défendre à fond. Voilà, donc l'autre possibilité, c'est qu'il y a quelque chose qui forcément et heureusement et par définition échappe à toute prévisibilité, donc à toute connaissance scientifique. Ce ne sera pas une connaissance scientifique, on pourra juste... Voilà.
Tout dépend aussi de ce qu'on met derrière une connaissance scientifique.
Oui. Je pense que, disons, on peut... À partir du moment où on parle du futur, c'est autre chose d'être dans un projet et d'être dans une connaissance. Une connaissance du futur, ça signifierait qu'on peut dire ce qui va se passer. Voilà. Un projet, c'est de dire ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est la grande différence aussi, même entre philosophie et politique. Moi, je n'aime pas trop confondre philosophie et politique, même si, évidemment, on peut faire les deux ensemble, on a intérêt à faire les deux ensemble, mais la politique, c'est vraiment le lieu du projet. C'est le lieu où on décide, où on choisit ce qu'on veut. La philosophie, non, c'est une forme de connaissance, même si elle a des méthodes autres ou des objectifs autres que la science au sens strict, mais c'est une forme de connaissance. Donc, elle peut seulement analyser ce qui se passe, mais elle peut pas, c'est pas elle qui veut l'avenir. Donc, ouais, voilà, vous me tendez une perche pour faire aussi cette distinction.
Si on veut s'opposer à une idéologie dominante, il faut bien recréer, il faut bien faire référence, sinon on s'indigne et puis c'est tout.
Donc ça implique de créer des valeurs, hein, non, de créer justement de se créer un projet, une représentation de ce qu'on veut. Oui, bien sûr. C'est un autre problème, peut-être que c'est à ça que vous faites allusion, c'est peut-être un autre problème aussi, d'un certain repli militant actuel, c'est le refus de se donner un projet global, on peut dire. Le refus de se dire où on veut aller. C'est le fait d'être simplement dans des affrontements ponctuels, sans dire en même temps, mais on s'affronte à ces oppressions ponctuelles au nom d'un projet global autre qu'on voudrait réaliser, etc.
Je pense qu'on a été échaudé par l'Union soviétique. Hein. Ce rêve immense qui a été, et puis qui a été ce qu'il est, et puis maintenant, depuis qu'il est effondré, ils en profitent bien, les autres aussi. Hein.
Mais depuis quand est-ce qu'on est désillusionné? Depuis quand on est désillusionné sur les pays de l'Est?
Est-ce qu'on ne réduit pas un peu trop le débat à cet échec de l'Union soviétique? Il faut se rappeler que Marx avait dit « La révolution ne réussira que dans un pays développé. » pas dans un pays comme l'Union soviétique, comme la Russie, qui était paysan, que dès la révolution a mené, ils ont été entourés par des armées qui ont affamé. Est-ce que ça n'a pas pu donner à cette Union soviétique de mauvaises habitudes, qu'on n'excusera pas, mais qu'on pourrait comprendre, et qu'il ne faut pas, qu'il faudrait se garder de jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein? Voilà.
Oui.
À aucun moment, vous avez entendu parler de la croyance, non pas de la croyance religieuse, mais je veux dire de la croyance, l'espoir, de l'utopie, c'est-à-dire à un moment donné, cette raison qu'on met en avant, vous essayez de donner comme aussi, qu'est-ce que devient la croyance là-dedans, quelle est sa place?
Alors vous soulevez quelque chose de très important, mais qui est à mon avis une discussion sur les termes qu'on emploie. Parce que le terme de croyance, c'est la croyance, c'est une conviction. C'est quelque chose dont on est convaincu. Donc ça peut être une foi religieuse, mais pas nécessairement. On peut dire qu'on croit, par exemple, au potentiel humain. On peut dire qu'on croit en la possibilité de l'être humain de développer autre chose. C'est une certaine confiance ou conviction que c'est possible. Ça, c'est, on peut dire que c'est une croyance, mais on ne peut pas croire en le futur. C'est-à-dire, ou alors, ça devient une croyance, comment dire, sans fondement. C'est-à-dire que dire « je crois que le futur sera tel ou tel, je crois que dans l'avenir nous réussirons à faire ça », c'est transformer ce qui est un désir et un projet en quelque chose qui est une certitude. J'ai la certitude qu'on va y arriver. Et ça, on ne peut pas avoir de certitude sur le futur. Sauf, évidemment, si on croit à des lois de l'histoire, etc., et qu'on dit, en vertu de la loi, ça se passera. Mais dès qu'on abandonne cette attitude-là, une croyance par rapport au futur, ça ne peut pas être... voilà, vous voyez, ça n'a pas vraiment de fondement, quoi. Il vaut mieux alors utiliser désir ou projet, volonté même, hein, j'ai la volonté que ça devienne ça... Mais on peut dire « je crois que c'est possible ». C'est différent. Dire « je crois que c'est possible », c'est très différent de dire « je crois que ça va se faire ». Voilà, c'est toute la différence entre le possible et le réalisé.
En tout cas, il y a un moteur de croyance avec toutes les définitions que vous avez données qui nous animent tous, je dirais, à un moment ou à un autre, je veux qu'on soit dans l'objectivité de repérer exactement ce qui est de l'ordre du désir, de l'utopie, de la... imaginaire, très éloigné, je veux dire, d'une raison qui construit quelque chose.
En tout cas, cette croyance, au moins en la possibilité, est absolument indispensable. Parce que si on ne croyait pas que c'est possible, évidemment, on ne le ferait pas. Ce serait même plus la peine de le désirer, ou alors ce serait un désir frustré pour l'éternité. Donc, c'est sûr qu'il faut au moins croire que c'est possible. Donc vous avez raison d'ajouter cet élément-là, quoi, la croyance en fait que c'est possible. Et c'est pour ça aussi que une analyse des conditions de possibilité de l'action est importante. C'est peut-être ça aussi qui justifie une analyse un peu théorique des choses pour justement mettre à l'épreuve la croyance qu'on a en la possibilité. Est-ce que c'est une croyance illusoire, hein? Est-ce qu'on croit à tort que c'est possible? Ou bien est-ce qu'on a de bonnes raisons pour croire que c'est possible? C'est ça le rôle de la théorie, c'est de montrer les bonnes raisons qu'on a de croire que c'est possible. Après, c'est l'action qui réalise.
Changement, c'est maintenant.
Pardon ?
Changement, c'est maintenant.
Oui, alors...
Et d'ailleurs, sur la connaissance théorique dans l'imaginaire radical, est-ce que Castorianisme est de la connaissance sensible, que de la connaissance sensible, ou il rajoute aussi un peu de la connaissance théorique ?
Alors,
donc, comment, pour l'imaginaire radical, comment reconnaître... dans le discours de l'autre, un discours libérateur ou un discours oppressant, sans référence forcément à un discours au moins théorique. Par exemple, sur l'URSS, on parlait de l'URSS, il s'est trompé sur l'URSS, parce qu'il a toujours dit que ce système était incapable de se changer de l'intérieur. Or, la perestroïka, c'est bien une critique de l'intérieur même du système par les dirigeants même du système. Donc, même le système, entre guillemets, aliénant ou oppressant, peut se changer de lui-même de l'intérieur. Et ça, il a toujours été persuadé, lui, Castorianis, que l'URSS serait incapable de se réformer, de se changer, de se critiquer elle-même. En fait.
Je ne sais pas si... Je sais pas si la... Comment dire...
Si c'est la, c'est la critique qu'on fait de manière générale. Il a toujours dit que l'URSS serait incapable de se transformer.
Elle ne s'est pas transformée, c'est pas. Elle s'est écroulée, mais
c'est quand même le premier secrétaire du Parti communiste. C'est lui qui lance la pérestroïka.
Oui, mais elle a disparu.
Mais ça c'est autre chose, je veux dire, que ça ait disparu ou quoi, mais c'est le système lui-même de l'intérieur, par ses principaux dirigeants, qui s'est remis en avant.
Oui, mais parce qu'il ne pouvait pas faire autrement aussi, c'est parce que...
Castoriadis a pu se tromper à certains moments, et d'ailleurs il a reconnu une erreur à propos du capitalisme, mais je n'ai pas lu à propos de... Enfin, je n'ai pas vu cet extrait.
Mais c'est important de se tromper, je veux dire...
Bien sûr. Il a reconnu une erreur par rapport au capitalisme. Il a dit qu'il s'était trompé en croyant que le capitalisme... Attendez, du coup, je ne sais plus exactement aller. Était menacé, je ne sais plus par quoi. Enfin, il pensait au départ que le capitalisme n'en avait plus pour longtemps, quoi. Et donc, là, il s'est trompé. Comment il a reconnu son erreur, mais je ne sais pas plus précisément. Mais je veux dire, il peut bien sûr s'être trompé et puis avoir, évidemment, avec la situation qui évolue, etc., corriger son erreur.
Mais je veux dire que l'URSS ne pouvait pas faire autrement que s'effondrer, dans la mesure où il misait tout sur le complexe militaro-industriel, sur la course aux étoiles. Hein, n'oublions pas quand même que l'Union soviétique est l'une des puissances dans ses ressources naturelles, platine, or, diamant, blé, pétrole, gaz, etc. Et comment se fait-il qu'à un moment donné, il achetait du blé aux États-Unis, du blé à l'Argentine, etc. C'est un effondrement de capitalisme d'État, tout simplement. Ils ne pouvaient pas faire autrement. C'est pas eux qui se sont... Hein, parce que de toute façon, ceux qui étaient au pouvoir, hein, toute cette nomenclature, etc., hein, eh ben, je suis désolé, ils ne crèvent pas de faim dans la rue, ces gens-là. Hein, je suis désolé, hein, ils auront bien question quoi avec le système, mais ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils ne pouvaient plus le gérer, ils n'étaient pas à la rue. Hein,
je voudrais revenir à ce qu'a dit Maurice au début de son intervention. Donc, est-ce que l'imaginaire radical est formé seulement par des perceptions, des données sensorielles, et comment est-ce qu'on peut repérer ce qui vient de l'autre, ce qui discourt de l'autre ou pas, ou aliénant ou pas? Alors, l'imagination radicale dans l'individu, hein, parce qu'on peut parler aussi de l'imaginaire radical au sens social du terme, hein, l'imaginaire social au sens où il est porté par toute la société entière, dans ses institutions, etc. Mais ici, je pense que tu parlais de l'imagination radicale de l'individu. Hein. Donc dans l'individu, c'est l'imaginaire radical, c'est donc la source de ces représentations de toutes sortes qui sont constamment produites par l'individu. Alors, toutes les représentations, ça c'est important, effectivement, ont pour base des données sensorielles. C'est-à-dire que la source de l'imagination, c'est la sensation. On n'imagine que des choses qu'on a déjà senties. Alors, même en les déformant, les transformant, les recomposant, tout ce qu'on veut, mais n'empêche que si on n'a pas d'expérience sensible, on n'a pas non plus d'imagination. Et l'imagination s'enrichit évidemment de toutes les expériences sensibles. Donc déjà, il faut évidemment en premier lieu qu'on ait cette source. Alors du coup, l'imaginaire radical n'est pas la seule source de la perception, puisqu'il faut aussi le monde extérieur. Bien entendu, l'imaginaire radical, ce qu'il fait par rapport aux sensations, c'est qu'il les traduit pour lui. C'est là ce à quoi on a fait allusion avec la clôture du vivant. Il reçoit des affects de l'extérieur, il reçoit des perceptions, et il les traduit pour lui. Ça, c'est l'imaginaire radical qui le fait. Il traduit pour lui, c'est-à-dire il traduit « c'est bon pour moi, c'est mauvais pour moi, je fais ceci avec ça, je fais ceci, je l'interprète comme ça ». Il interprète. Et en plus, il ajoute des tas de représentations qui ne dépendent plus cette fois de l'extérieur. Hein. Une fois qu'il a un certain nombre d'expériences, il peut se les représenter quand il veut. C'est ça, le terme de représentation veut dire ça, quoi. C'est vraiment le fait de raviver, hein, de faire revenir à la conscience des expériences, soit telles qu'elles ont eu lieu, soit d'une autre manière, hein, en les recomposant jusqu'à la fiction. Voilà, c'est aussi la faculté de la fiction. Mais donc voilà, d'une certaine manière, tout dépend des expériences sensibles. Si un être était dépourvu de toute sensation, il n'aurait aucune autre faculté non plus. Ni imagination, ni désir, ni bien entendu pensée, ni quoi que ce soit. Donc tout dépend effectivement au départ de la perception. Maintenant, comment est-ce que ça se transforme? L'imaginaire radical est aussi la source de la pensée. Et ça, ce n'est pas l'imaginaire radical de tous les animaux, par exemple. Il se fait que l'imaginaire radical de l'être humain est capable de produire aussi de la rationalité, comme on l'a vu, d'instituer la rationalité, la scientificité, la méthode, la pensée raisonnante, etc. Il se fait qu'il est capable de produire ça aussi. Et que donc, à partir d'un certain moment, il produit des choses très différentes, de l'imagination, de la fiction, de la croyance, de la foi, de la raison, il produit tout. Et à ce moment-là, il y a une sorte de conflit entre toutes ces productions, et il faut qu'il les arrange, qu'il crée à nouveau, lui-même, sa hiérarchie entre les différentes, entre ces différentes expressions qu'il a créées lui-même. Et c'est cette création de rationalité et de réflexivité. Hein. C'est vraiment très important que c'est bien quelque chose qui nous est donné par notre structure d'être humain. Le fait de pouvoir réfléchir sur nous-mêmes, de pouvoir donc réfléchir sur les sensations que nous avons, sur les représentations que nous avons. Le fait de pouvoir réfléchir nous est donné. Voilà. Et c'est grâce à cette possibilité-là, c'est grâce à cette faculté-là, qu'on peut avoir un esprit critique, hein, donc sélectionner parmi tout ce qui nous arrive, ce qu'on veut retenir, ce qu'on ne veut pas retenir, ce qu'on veut en faire, ce qu'on ne veut pas en faire. On peut pas, je pense qu'on ne peut pas répondre plus précisément que ça, quoi. Enfin, je ne sais pas si ça te satisfait, mais...
Non, mais c'était par rapport à la notion de bon par-dessus la connaissance, là, chez les marxistes, passer de la connaissance sensible à la connaissance théorique, on appelle ça un bon par-dessus la connaissance, qui est un bon, qui ne veut pas dire grand-chose.
Un petit saut.
Mais bon, qui est important dans l'imaginaire radical des marxistes. Ouais. Ils sont pas de... Par exemple, des formes de manifestation des phénomènes cachent leur détermination interne, donc il faut construire tout un système théorique pour comprendre ce qui se passe. Donc c'est ce fameux bond par-dessus la connaissance. Et à partir de construction de moyens théoriques, donc tout ça c'est déjà un discours qu'on peut considérer comme aliénant ou oppressant. Et bon, on est influencé par ce discours-là quand même, qui ne vient pas naturellement, je veux dire, qui est forcément apporté par quelqu'un. Quoi.
C'est ce que Castoriadis appelle la création de la rationalité, qui est apparue historiquement à un certain moment, qui n'a pas toujours appartenu à l'être humain depuis ses formes les plus primitives, et qui n'a pas d'ailleurs été faite sous cette même forme, en tout cas, sous cette forme théorique scientifique dans toutes les cultures. Mais là où ça n'est pas apparu comme ça, c'est apparu autrement, c'est-à-dire qu'il y a aussi eu un bond, si on veut, ou un saut, ou une autre forme de connaissance à côté de la simple perception des choses, et ça a pu être sous forme justement de développement de mythologie. La mythologie, c'est aussi une forme d'explication. On explique aussi les raisons des choses, mais simplement d'une autre manière, hein, sous forme de récits d'origine. Quelle est l'origine, pourquoi est-ce que... du fait que ça se constitue comme ça, que la réalité s'est constituée comme ça. C'est une autre forme de, si on veut, de rationalité ou de logique qui permet d'expliquer les choses. Donc c'est quand même un désir d'explication. Hein. Ça reste un désir d'explication, mais sous une autre forme que l'explication scientifique. Mais de toute façon, effectivement, c'est apparu à un certain moment dans l'histoire. Toutes ces formes sont apparues dans l'histoire. Et donc elles sont apparues... Oui, mais ça veut dire qu'elles sont apparues... Il y a des êtres humains qui ont commencé, enfin des individus qui ont commencé à faire ça. Hein, et ça veut dire qu'à un certain moment, alors on ne sait pas à quel moment est apparue la potentialité même pour le faire, c'est-à-dire à partir de quel moment le cerveau humain a été assez, voilà, a été capable, a eu les matériaux, parce qu'il faut quand même des matériaux de cerveau, a eu les matériaux nécessaires pour faire ce saut. Donc il a fallu d'abord ça, évidemment, un changement du cerveau lui-même, de sa matérialité. Mais ce changement de sa matérialité n'a certainement pas entraîné tout de suite la réalisation de son potentiel. Il a pu s'écouler des centaines de milliers d'années avant que ce potentiel soit réalisé. Voilà. Mais ça fait partie, effectivement, du développement, donc on peut dire, biologique de l'humain, quoi. Le fait de devenir capable de faire ça. Et puis, mais après, le fait de le réaliser d'une façon ou d'une autre, ça, ce n'est plus biologique. Ce n'est plus déterminé biologiquement. Le besoin d'explication, d'aller au-delà de la simple apparence des choses, hein, le fait d'aller au-delà de la simple apparence, de chercher plus loin, ça, c'est une faculté qui s'est développée en nous, biologiquement. Mais le fait de donner telle ou telle explication, de développer telle ou telle méthode d'explication, ça, c'est ce que Castoriadis appelle un choix de l'imaginaire radical. c'était pas déterminé. C'était pas nécessairement telle tribu devait le faire comme ça et telle tribu comme ça. Non, on n'a pas de conformation du cerveau différente. C'est plus la conformation du cerveau là qui détermine. C'est vraiment qu'un individu s'est dit plutôt ceci et un autre plutôt cela, et voilà. Et ça a marché.